Voilà pour l'actualité. Belle matinée à tous.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande présentée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons vous amener au cours de cette émission à découvrir une cité qui a connu une histoire plus que chahutée et comme d'ailleurs bien souvent les villes frontières, certes ici... Vous allez être un peu étonné, bien sûr, d'apprendre que cette ville était ville frontière à un moment. Et oui, c'est que les frontières bougent au gré de l'histoire des événements. Et donc, il s'agit ici tout simplement de la ville de Hesdin.
Will the Riemann Bay? Will the Riemann Bay? Will the Riemann Bay Messias sein? Will the Riemann Bay Messias sein? Zoek naar een Messias. Man of vrouw heeft geen belang. Die mijn ziel wat heil kan geven, want dat zoekt mijn ziel al lang. Ik ben op zoek naar een verlosser. Zo eentje die er zin in heeft. Hij hoeft niet voor mij te sterven als hij mijn zonde maar vergeet. Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij Messias zijn? Wil er iemand bij Messias zijn? Hey! Ik ben op zoek naar een Messias die nog door niemand werd misbruikt. Geen roesbaan naar het conflicten, geen heiland die naar olie ruikt. Waar nog geen enkele extremist ooit opgezworen heeft. Een Messias die nog fris zit en waar geen bloed aan kleeft. Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij Messias zijn? Feit op hoge hakken of besnapt. Ik zoek een God vol van genade. Zo een die meelacht als er gelachen wordt. Wiens kerken niet in Bremmer baden. Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij Messias zijn? Wil er iemand bij Messias zijn? Wil er iemand bij Messias zijn? Wil er iemand bij? Wil er iemand bij? Op korte of iets langere termijn. Wil er iemand bij Messias zijn? ville die maar mijn Messias zijn.
D'entendre Bart Peters vous interpréter Messias Messi. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la ville de Hedin, en flamand Eusden. C'est une ville qui est donc située au nord d'Abbeville, à l'entrée du pays des Sept Vallées. Elle est traversée par un fleuve côtier, la Canche, un fleuve d'une longueur d'environ 100 km, qui prend sa source à Gouy en Artois, à hauteur de 130 mètres d'altitude. Elle prend rapidement d'ailleurs du volume et de la force, car elle est alimentée par de très nombreux affluents. Son début est puissant et d'ailleurs un industriel à la fin du 19e siècle va construire une centrale électrique qui va rester en service jusqu'à peu près les années 65-70. Hedin est une cité qui a été construite assez rapidement puisque évidemment vu de sa situation, eh bien elle attire les populations, les familles. On cite pour la première fois Hedin vers le 6e siècle. Mais il y a une doute que déjà bien avant, il devait avoir des personnes qui s'étaient installées, car évidemment le site est particulièrement propice, ne serait-ce que déjà par le fleuve qui est riche en poissons pour la navigation, pour les échanges. Hedin très vite se dote de remparts et d'un château, car évidemment, eh bien, au cours de ces premiers siècles, évidemment, eh bien, les hommes du Nord, ce qu'on appelle les Vikings, évidemment, longent les côtes et rentrent à l'intérieur des terres via justement ces fleuves. Et évidemment, Hedin, bah, comme bien des cités de Flandre, vont subir les ravages et les pillages de cette population du Nord. Le comte de Flandre, Baudouin VI, va renforcer dès 1067 les remparts de la ville. Il va d'ailleurs construire un château qui est une véritable forteresse redoutable. La ville de Hedin est une ville frontière entre le royaume de France et le comté de Flandre. Les familles du comte d'Hedin, d'ailleurs, sont très vite une famille riche et puissante. Et d'ailleurs, l'un d'eux va accompagner Guillaume le Conquérant dans l'invasion de l'Angleterre. Il sera d'ailleurs largement récompensé par Guillaume pour sa bravoure et puis par son service au futur roi d'Angleterre. Il va lui attribuer une riche dotation de terres et de châteaux en Angleterre. Par contre, un de ses successeurs de ce comte, eh bien, malheureusement, lui aura une attitude un peu moins sympathique, en particulier envers le comte de Flandre, son suzerain, et évidemment, le comte de Flandre, eh bien, tout simplement, va le punir en lui confisquant purement et simplement ses terres. Ces terres d'ailleurs qui vont servir plus tard en dot pour la nièce du comte de Flandre, Philippe d'Alsace, pour sa nièce Isabelle du Hainaut, qui épousera donc le roi français Philippe Auguste. Et c'est ainsi que la ville d'Hedin va être rattachée à la couronne de France. Et c'est aussi l'occasion de bâtir eh bien, le comté d'Artois de façon officielle. En 1237, Saint-Louis, d'ailleurs, attribue ce comté d'Artois avec la ville d'Hedin, bien sûr, qui à l'époque est une ville très puissante, très prisée, qui est même beaucoup plus puissante que la ville d'Arras. Et donc ce comté d'Artois sera attribué au frère de Saint-Louis, Robert, qui va prendre le nom de Robert Ier d'Artois. Ce comté va devenir quasi autonome. Et donc il va bien sûr être un petit peu au détriment du comté de Flandre.
Ta-da-da-da-da. vlak bij de stroom. We spelen daar cowboy. Smiddags na school. Nu als ik alleen ben. En jij bent er niet.
Ik was heel wat jonger, maar toch deed ik mee. Al de feesten en vuiven, tot laat op café. Maar ik voelde me beter toen ik de groep verliet en heel vaak kon horen. De wind in het
Eric et San, vous interprétez Devinez notre rite, le vent dans les roseaux. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la cité de Hédin. Hédin, donc une cité qui a eu une histoire très chahutée. Et ici, Hédin, qui faisait partie donc du comté d'Artois, eh bien, en 1330, va rejoindre les terres bourguignonnes. D'ailleurs, les ducs de Bourgogne apprécient particulièrement cette ville d'Hédin et en particulier surtout son château qu'ils entretiennent, l'embellissent et le renforcent. Ils aiment y recevoir d'ailleurs les diplomates, les conseillers des cours européennes. Les ducs de Bourgogne en font une résidence régulière. Et on imagine aisément la vie que a pu connaître la cité d'Edin avec la fréquentation de la cour de Bourgogne, sachant même que, eh bien, le duché de Bourgogne n'était pas un duché sans centraliste comme le royaume de France, puisque il était doté de plusieurs capitales où se résidaient régulièrement donc les ducs de Bourgogne qui voyageaient beaucoup à l'époque. Mais voilà, le roi de France de cette période, un certain Louis XI, il n'apprécie guère cette Bourgogne qui devient de plus en plus puissante, non seulement parce qu'elle possède une armée d'ailleurs avant-gardiste à l'époque, puisque c'était une armée déjà composée de militaires de métier et non composée essentiellement de mercenaires comme dans la plupart des armées européennes de l'époque. Mais la Bourgogne est aussi réputée, bien sûr, pour la richesse de son commerce, pour ses villes drapières et aussi pour sa vie culturelle, et en particulier avec, bien sûr, les peintres flamands qui ont une réputation largement qui va au-delà, bien sûr, des frontières du duché de Bourgogne. Alors Edin, bien sûr, fait l'objet d'attaques régulières de la part des troupes de Louis XI. C'est un peu une sorte de guérilla pour essayer d'affaiblir naturellement ce duché de Bourgogne. Et Louis XI, bien sûr, va chercher constamment à affaiblir son concurrent, Charles le Hardi, plus connu en France sous le nom de Charles le Téméraire. C'est en 1477 que Charles le Téméraire va trouver la mort lors du siège de Nancy. Et bien sûr, le roi de France en profite aussitôt pour, bien sûr, faire main basse sur plusieurs grandes villes du duché de Bourgogne, dont en particulier cette ville bijou qui est la ville de Edin. La ville de Edin va rester d'ailleurs française jusqu'en 1553. Et là encore, la cité, donc en 1553, va connaître une année noire. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va écouter un texte justement qui relate un petit peu cette période historique, extrait donc de Zalmana.
Le joyeux château d'Edin. En 1435, le duc de Bourgogne et Charles VII signent le traité d'Arras qui met fin à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Philippe le Bon, fils de Jean sans peur, réside souvent au château d'Edin où il se plaît et où il reçoit de nombreuses visites royales et princières. Il rencontre tant de visiteurs qu'à sa mort on dit que son château ressemblait à une véritable caverne d'Ali Baba, bourrée de cadeaux précieux, de pièces d'orfèvrerie et de tableaux. Il s'était attaché les services d'un ingénieur facétieux nommé Collard, sur qui reposait l'organisation des fêtes, mais surtout la transformation du palais en une espèce de Disneyland au milieu d'un jardin fantastique et d'un château extraordinaire. Une multitude de statues d'hommes et d'animaux peuplaient le parc, tandis que s'y ébattait une armée d'automates. Certains, en costume de fou, bastonnaient les visiteurs dès qu'ils s'en approchaient. Dans une grotte, se tenait un ermite en bois qui parlait aux gens qui le visitaient, et l'on pouvait aussi admirer la fontaine féerique qui coule à l'envers, allant toujours dont elle vient. Dans le château, on faisait ouvrir une fenêtre aux visiteurs, et une poupée la refermait après avoir jeté de l'eau aux patients. Les bascules jouaient un grand rôle dans ces machineries. Des trappes s'ouvraient sous les pas, et jetaient les visiteurs dans l'eau ou dans des sacs d'où ils sortaient tout emplumés. Des sacs de farine ou de suie se déversaient sur les têtes des glorieux seigneurs du moment et de leur épouse. Collard avait truqué toutes les pièces. Des livres explosaient à la figure du lecteur. Le prie-dieu s'écroulait ou éjectait son occupant. Les miroirs déformaient, etc. En se mettant aux fenêtres, on faisait partir des jets d'eau. Si les dames avaient le malheur de mettre le pied sur un engin de Collard, elles recevaient sous leur jupon un bon jet d'eau fraîche qui les faisait rire ou hurler. Pour le divertissement et l'émerveillement des invités du duc, Collard le magicien fait tomber du ciel des averses artificielles, éclater de faux orages, voltiger des flocons de neige factices ou faire donner réponse à des boîtes pendues en l'air. Rien n'est négligé pour le plaisir des visiteurs du duc de Bourgogne, qui emploie dans son château dans le parc et les communs, une foule d'employés, guetteurs, sergents, gardes, portiers, artilleurs, archers, jugeurs de vin, chapelains, avocats, conseillers, veneurs, chambellans, servantes, cuisiniers, filles de cuisine, lingères, jardiniers et gardiens de bêtes. Le duc Philippe le Bon meurt en 1468, son fils Charles le Téméraire lui succède et ne tarde pas à reprendre le chemin de la guerre. Il meurt à Nancy en 1477. D'autres fantômes moins sympathiques allaient se mettre à hanter les murs du château d'Edun. Louis XI, qui connaît bien les lieux pour y avoir séjourné souvent, vient assiéger et prendre la place forte. La ville sera complètement rasée en juin 1533. Donc un texte intitulé « Le joyeux château d'Edun » dans un almanach des gens du Nord, publié en 2001. Le texte est du rédacteur en chef Gérard Bardon.
Voilà, donc le château de Edun, donc qui était particulièrement apprécié et réputé donc par les ducs de Bourgogne et aussi par la suite, bien sûr, par le roi de France Louis XI. Et ce château donc va rester, la ville d'Edun va rester française jusque cette année de 1553, où là, Charles Quint, décide de reprendre la ville. Et comme elle faisait partie par le passé du duché de Bourgogne, ses ancêtres, évidemment, Charles Quint est très attaché à ce bijou. Et malheureusement, Charles Quint apprend au même moment qu'il vient de subir une terrible défaite au siège de Metz. Et Edun, contrairement à ce qu'il croyait, reste fidèle au royaume de France et va même mener une certaine résistance, ce qui va mettre en colère donc Charles Quint, qui va décider purement et simplement de passer la population au fil de l'épée et de raser complètement la ville.
Te slapen gaan alsof er niets was gebeurd. Nadat je mij had pijn gedaan en heel mijn wereld had ontkleurd. Ik heb me voortdurend afgevraagd wat ik in hemelsnaam misdeed. Ik heb alle uren horen slaan en elk moment opnieuw beweerd. Ik heb jou sindsdien nooit meer gezien, geen enkel woord meer gehoord. De tijd verzacht het leed misschien, maar het leven sleept eentonig voort. Stilaan word ik eraan gewend dat jij nu van een ander houdt. Maar heel mijn hart roept als ik denk dat hij jou in zijn armen houdt.
Laura Etkanitze, ce n'est pas possible. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
104.3, et vous pouvez bien sûr aussi écouter sur le site internet de la radio www.radioplus.fr. Alors, la ville de Hesdin, eh bien, elle a subi la rage de l'empereur Charles Quint, qui l'a fait raser purement et simplement. Mais il va la faire reconstruire, cette cité, à peu près à 5 kilomètres, un peu plus loin. Il va faire reconstruire entièrement donc cette cité de Hesdin, qui était bien sûr très chère au duc de Bourgogne. Ainsi, eh bien, Hesdin va donc retrouver les États bourguignons, va retrouver, il va être géré donc par un gouvernement des Pays-Bas espagnols jusqu'en 1639. À cette date, eh bien, cette fois les troupes françaises de Louis XIII qui vont venir, eh bien, reprendre la ville. Cette ville donc va rejoindre la couronne de France pendant encore quelques années. Cette ville donc frontière qui, eh bien, comme vous le constatez, passe du royaume de France au royaume des Pays-Bas. Quelques années plus tard, c'est Louis XIV qui, lui, cette fois, va repousser la frontière un peu plus au nord, avec sa victoire en particulier en 1677 lors de la bataille dite Bataille de la Peine. La frontière qui sera dessinée alors ressemble un petit peu à celle d'aujourd'hui, celle de qui sépare donc la France de la Belgique, sachant bien que, bien sûr, la Belgique n'existait pas encore à l'époque. Les villes de Saint-Omer, Berg, Onscott, Bayeul vont passer donc dans la couronne du roi de France. Et la frontière quasiment ne va plus bouger. Hesdin donc va quitter son statut de ville frontière pour être intégré donc à l'intérieur du royaume de France. Alors bien sûr, Hesdin qui avait une vie bien sûr très chahutée à cause de ses conflits permanents va retrouver un certain calme et ses activités commerciales vont pouvoir reprendre, sa population grandit. Et c'est ainsi qu'au début du 19e siècle, Hesdin enregistre près de 4000 habitants. Or, aujourd'hui, eh bien, selon les dernières statistiques, la population ne dépasse pas les 2500 habitants. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, c'est que la ville d'Hesdin était certes une ville commerçante importante, mais c'était aussi une ville de garnison. Et évidemment, quand la frontière est repoussée un peu plus au nord, eh bien, il n'était plus forcément nécessaire de garder autant de soldats sur la place de Hesdin, puisqu'ils ont été mis sur, bien sûr, les villes plus près des frontières, comme des villes comme Dunkerque, Lille. Et donc, évidemment, ces troupes quittant la ville de Hesdin, eh bien, va faire plonger de nombreux commerces, vont fermer, les gens vont quitter la ville. Et cette population va descendre tout doucement, donc pour atteindre aujourd'hui à peu près les 2500 habitants. Néanmoins, Hesdin, ce n'est pas pour autant que c'est une ville qui ne mérite pas le détour. Bien au contraire, c'est une ville qui a un très riche patrimoine architectural, comme en particulier son beffroi, qui est d'ailleurs inscrit à l'UNESCO et qui culmine à 70 mètres, qui a été entièrement rénové il n'y a pas très longtemps. L'église Notre-Dame, de type néogothique du XVIe siècle, mérite bien sûr votre visite. La ville eh bien, regorge de très nombreuses maisons du XVIe au XVIIIe siècle, comme particulièrement la maison natale de l'abbé Prévost, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais il y a aussi ce grand bâtiment, la brasserie Malterie, qui est particulièrement impressionnante par la hauteur des bâtiments. L'ancien hospice aussi, qui est construit selon la volonté de la fille de Charles Quint. Donc la ville de Hesdin mérite largement une visite et donc vous allez être plongé dans ce riche passé très bousculé, très chahuté de la ville de cette ville ex-frontière qui est devenue donc la cité, qui était une cité préférée des ducs de Bourgogne, mais aussi très prisée aussi par en particulier Louis XI. Et donc nous ne pouvons que vous inviter à visiter la ville de Hesdin.
Zigzag flaneren we op straat, twee oude vrienden in de toch mee maakt. Wilde verhalen, zacht gemor en schandalen. We trokken zich zacht de wijde wereld in. Ik zag je altijd met een andere vriendin. Jij hield er de schoon in. Zij leek de ware, maar je huis werd. Wat hem te wachten staat, welke kant het op gaat. Hoogmoed en zonde roddels deden de ronde. In het lang en breed, maar we lachen nog steeds. Dus trek maar. Alimentatie betaalt maar altijd een feest, want we lachen nog steeds.
Que vous avez sans doute eu l'habitude d'entendre chanter en français, cette fois-ci interprétée par Willie Sommers, mais sous le titre de Zigzag, interprétée d'ailleurs en duo avec Helmut Lotti. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Sur Radio Plus 104.3. Et donc aujourd'hui, nous évoquons Hesdin, que nous invitons bien sûr à visiter, car ça vaut le détour, ne serait-ce que pour la ville elle-même, mais aussi bien sûr pour le magnifique paysage du pays des Sept Vallées. Et d'ailleurs, quand vous allez vous rendre à l'office de tourisme, eh bien cette ville a été particulièrement marquée bien sûr par Charles Quint, et donc vous allez pouvoir voir au-dessus du porche d'entrée eh bien les armes de l'aigle bicéphale de l'empereur Charles Quint. Alors évidemment, la ville eh bien, a aussi de nombreux personnages importants. Alors on ne peut pas tous les citer ici, bien sûr, alors on va en retenir deux. Clovis Normand et l'abbé Prévost. Alors tout d'abord, donc, on va parler de Clovis Normand.
Né à Hesdin en 1830, Clovis Normand fut d'abord menuisier. Doté d'un solide coup de crayon, il se forme lui-même au métier d'architecte. En 40 ans, il va diriger 670 chantiers autour de Montreuil-sur-Mer. Il construit 45 églises, campagne les Hesdin, Notre-Dame des Ardents à Arras, les Chartreuses de Neuville-sur-Montreuil. Je ne les citerai pas toutes. L'inspiration médiévale sous-tend toute son œuvre. Il utilise la brique ou la pierre, suivant les crédits qui lui sont accordés. À Hesdin même, où il va résider toute sa vie, il est conseiller municipal puis adjoint aux travaux. Il rénove l'hôtel de ville et la Bretèche, reconstruit le beffroi, crée le petit théâtre, désormais appelé théâtre Clovis Normand d'ailleurs, et la chapelle de l'hôpital Saint-Jean, restaure l'intérieur de l'église. On peut voir la maison à la façade richement décorée qu'il construisit pour ses parents, avenue du Maréchal Leclerc à Hesdin. C'est le beffroi qu'il a construit qui est, depuis le 15 juillet 2005, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Donc, un sacré personnage qui mérite bien sûr d'être connu, Clovis de Normand. Et il y a un autre personnage qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de Hesdin, c'est bien sûr l'abbé Prévost, un sacré curé celui-là. Alors évidemment, l'abbé Prévost, eh bien, était loin d'être un homme austère tel qu'on pourrait l'imaginer. L'abbé Prévost, donc Antoine Prévost, il est né à Hesdin le 1er avril 1697. Il est le fils du procureur du roi, Liévin Prévost. Il est issu d'une famille donc très aisée, dans une fratrie de 5 enfants, qui vont tous faire d'ailleurs de très brillantes études et de jolies carrières. Son frère aîné d'ailleurs va rentrer lui aussi dans les ordres comme bénédictin. Le jeune Antoine, eh bien, il est brillant, comme je viens de vous le dire, et très vite, il est repéré par les jésuites qui vont, ainsi que d'ailleurs son frère aîné, ils vont l'envoyer donc dans un collège à Paris, à l'école de Darcourt, pour suivre, bien sûr, des cours beaucoup plus, on va dire, élevés, hein, pour, bien sûr, tout simplement valoriser ses qualités. Il y part d'ailleurs très tôt à Paris. Il perd sa maman à l'âge de 14 ans, ce qui l'affecte naturellement. Mais le jeune Antoine Prévost, eh bien, c'est un homme qui est un homme, bien sûr, de réflexion, mais aussi un homme plein dans l'action. Il trouve que la vie dans ce collège, elle est beaucoup trop austère et très vite, eh bien, il va s'enfuir et il va s'engager dans l'armée. Mais là, bien sûr, la vie militaire, bon, ça ne le séduit pas beaucoup plus d'ailleurs. Il déserte, évidemment, déserter, c'est passible de punition très importante, hein, voire même la mort. Eh bien, il s'enfuit aux Pays-Bas. Nous sommes alors en 1714. La France et les Pays-Bas viennent de signer le traité d'Utrecht et ça lui permet donc à notre jeune Antoine Prévost de revenir donc 3 ans plus tard en France, où il retourne comme novice chez les jésuites à Paris. À l'époque, eh bien, visiblement, les prêtres, l'Église n'était pas rancunière. Très vite, malheureusement pour Antoine, eh bien, cette vie monastique semble lourde, pénible. Et donc il s'enfuit une nouvelle fois et il s'engage comme volontaire pour combattre en Espagne. Mais décidément, il n'est pas vraiment fait pour la vie militaire. Il quitte à nouveau l'armée et une fois de plus, eh bien, il va retourner vers l'Église. Il va rentrer en 1721 comme novice pour prononcer ses vœux chez les bénédictins.
Le deuxième jour d'année.
envie d'entendre Laïs vous interpréter un extrait des 12 mois. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, dont nous évoquons la ville d'Hénin et en particulier un de ses fils célèbres, l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, donc, qui est rentré chez les bénédictins en 1721, il a prononcé ses vœux. La règle de Saint-Benoît est particulièrement sévère, mais Antoine Prévost est un travailleur acharné, très érudit. Il écrit de nombreux ouvrages, dont un sera publié dès 1724, Les Aventures de Pompée. Pomponius, chevalier romain. Il publie d'ailleurs cet ouvrage en Hollande, d'autant que ce roman tout simplement est aussi une satire de certaines dérives de moines bénédictins. Il est ordonné prêtre en 1726. Il collabore en particulier à l'élaboration de la Gallia Christiana, un corpus d'érudition bénédictine, un ouvrage très savant. C'est assurément un homme de grande culture. L'année suivante, il remet un manuscrit de son œuvre « Les aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde ». Eh bien, évidemment, cet ouvrage s'inspire beaucoup de sa vie, particulièrement, pleine de rebondissements. Antoine Prévost, qui lui supporte de moins en moins bien cette vie austère qu'est la vie de bénédictin, se rapproche de l'Église protestante. Ses supérieurs, cherchent à l'emprisonner. Il s'enfuit alors à Londres. Mais notre homme n'est pas insensible au charme féminin. Il séduit la fille de son protecteur anglais. Et évidemment, comme on peut l'imaginer, le papa n'est pas très content et notre Antoine Prévost, il n'a plus qu'une seule solution. C'est à nouveau de s'enfuir en Hollande. Mais seulement, il avait oublié que là-bas, il avait laissé quelques dettes, si bien qu'il se retrouve en prison. Mais bon, il ne va pas rester longtemps en prison, il sera assez vite libéré. Il va d'ailleurs se réfugier à Amsterdam, où il va cette fois avoir une maîtresse qui, elle, malheureusement pour lui, va être très dépensière. Et à nouveau, il va devoir s'enfuir parce que, évidemment, les créanciers le poursuivent. Et il retourne, alors ça peut paraître étrange, mais il retourne en Angleterre, évidemment. On ne l'a pas tout à fait oublié et il se retrouve une nouvelle fois en prison. Mais là encore, il aura la chance de ne pas y rester trop longtemps. En 1733, il publie l'histoire du chevalier de Grieux et de Manon Lescaut, célèbre d'ailleurs beaucoup de... Malheureusement, on ne retient d'ailleurs de l'abbé Prévost que souvent ce roman. Et on ne résiste pas à la tentation de vous faire écouter un petit extrait de ce roman, emblématique de l'abbé Prévost.
Tiberge vint me voir un jour dans ma prison. Je fus surpris du transport avec lequel il m'embrassa. Je n'avais point encore eu de preuve de son affection qui puisse me la faire regarder autrement comme une simple amitié de collège, telle qu'elle se forme entre deux jeunes gens qui sont à peu près du même âge. Je le trouvais si changé et si formé depuis 5 ou 6 mois que j'avais passé sans le voir que sa figure et le ton de son discours m'inspirèrent du respect. Il me parla en conseiller sage plutôt qu'en ami d'école. Il plaignit l'égarement où j'étais tombé. Il me félicita de ma guérison qu'il croyait avancée. Enfin, il m'exhorta à profiter de cette erreur de jeunesse pour ouvrir les yeux sur la vanité des plaisirs. Je regardais avec étonnement. Il s'en aperçut. « Mon cher chevalier, me dit-il, je ne vous dis rien qui ne soit vrai, solidement vrai, et dont je ne me sois convaincu par un sérieux examen. J'avais autant de penchant que vous vers la volupté, mais le ciel m'avait donné, en même temps, du goût pour la vertu. Je me suis servi de ma raison pour comparer les fruits de l'une et de l'autre, et je n'ai pas tardé longtemps à découvrir leurs différences. Le secours du ciel s'est joint à mes réflexions. » Donc c'est un extrait de Manon Lescaut.
Que nous pouvons que vous inviter à découvrir ou à redécouvrir. C'est vraiment savoureux. Et ce roman, qui est largement autobiographique, évidemment, lors de sa première publication, fut purement et simplement interdit en France. Néanmoins, l'Église ne semble pas très rancunière, puisque malgré tout, eh bien, il peut rentrer à nouveau à Paris. Il devient d'ailleurs aumônier du prince de Conti, qui va le protéger. On dit que sa maîtresse qu'il va retrouver, eh bien, continue, eh bien, malheureusement, à dépenser plus qu'il ne gagne. Et évidemment, il sera souvent poursuivi pour eh bien, des dettes par ses créanciers. Néanmoins, eh bien, l'abbé Prévost, eh bien, lui, va une fois de plus, parce qu'il ne peut pas faire face à toutes ses dettes, tout simplement, non plus cette fois s'enfuir aux Pays-Bas ou en Angleterre, mais il va partir cette fois en Allemagne. Évidemment, là, il est un peu, on va dire, vierge de toute créance, et il va rester plus d'une année donc en Allemagne. Mais néanmoins, il va revenir une fois de plus en France. Il va continuer à publier de très nombreux ouvrages. Et d'ailleurs, il écrit aussi bien en anglais qu'en allemand. C'est un homme vraiment savant. L'abbé Prévost, eh bien, va décéder le 25 novembre 1763. Il avait alors 66 ans. Et pour terminer cette émission, eh bien, on va faire tout simplement écouter l'autoportrait de ce fameux curé.
Oui, c'est un des chapitres qui se trouve au bout de Manon Lescaut, Prévost par lui-même. Un petit extrait. Après avoir été soldat, puis jésuite, soldat pour la seconde fois, et ensuite jésuite, il s'est fait de rechef soldat, puis officier, bénédictin, et enfin réformé, protestant ou gallican. Qu'importe, il ne le sait pas lui-même. Il voudrait aujourd'hui se faire bénédictin à Cluny, sans doute pour aller de là jusqu'à Constantinople, prêcher l'Alcoran et devenir multi, s'il peut, et fixer ensuite sa retraite au Japon.
Voilà, tout ça résume bien la vie de l'abbé Prévost. Donc, nous ne pouvons que vous inviter à relire, donc, en particulier, ce roman de Manon Lescaut. L'émission s'achève et bien nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus au 104.3.
Jaar ben ik vergeten, vinden het is de moeite waard. Had al veel te lang gespaard, als seizoen nog al met vriezen. Komen zomerdagen aan, in de speelhof van Louise. Ben ik s'nachts op stap gegaan, ben ik s'nachts op stap gegaan. Maar Louise sprak mij aan, als ik uit mijn broek wou schieten. Maar Louise sprak mij aan, laat hem toch maar even staan, want je moet mij nog betalen. Voor je zulke zaken doet, dan zal ik je niet beletten om te spelen in mijn goed, om te spelen in mijn goed. Zoveel geld is toch wat veel, weet niet hoe jij dat er vraagt. 1000 frank is veel te veel, voor plezier dat ik met je deel. Voor de helft van zoveel duiten ben ik overal geliefd, zowel van binnen als van buiten. Ben ik overal geliefd, ja ben ik overal geliefd.
aan, dan zul je niet